Bonjour à tous et à toutes. Au micro, David Chemla, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en ligne avec Sami Cohen. Sami Cohen est directeur de recherche aux séries Sciences Po Paris. Il est auteur de plusieurs livres sur Israël, dont je rappelle au moins les deux derniers, Tzal face au terrorisme et puis Israël et ses colombes. Et j'ai donc voulu faire cette émission avec Sami Cohen, deux semaines à peu près après les événements du Mont du Temple ou de l'Esplanade des Mosquées, pour un petit peu revenir sur ces événements. Bonjour Sami.
Bonjour.
Voilà, donc comme je le disais en introduction, vous avez écrit récemment un article publié dans Le Monde qui revenait justement sur le déroulé de ces événements d'il y a une quinzaine de jours, dont on a beaucoup parlé probablement sur cette antenne aussi. Et je voulais un petit peu, avec le recul maintenant, revenir sur le déroulé de ces événements, comprendre un petit peu comment les choses se sont passées et le titre de votre article pour justement... Vous lancez un peu dans le débat, c'est les quatre erreurs de Netanyahou. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce point de vue ?
Bon, écoutez, donc, si on revient au tout départ, il faut rappeler l'incident sur le Mont du Temple où deux policiers israéliens ont été abattus par trois Arabes israéliens qui avaient dissimulé des armes dans des mosquées. Et donc, à partir de là, le gouvernement israélien prend la décision de mettre en place des portiques. Et là, il me semble que le premier problème qui s'est posé, c'était que cette décision s'est faite un peu à la hâte. Et il n'y a pas eu de véritable débat, d'autant plus qu'une partie des services de sécurité, notamment le Shin Bet et notamment l'armée, étaient hostiles à la mise en place des portiques parce que ils sentaient bien que cela provoquerait une irritation, voire une colère au sein du monde, au sein de la jeunesse palestinienne. Et voilà, le premier dysfonctionnement, c'est que le gouvernement israélien n'a pas pris la mesure, d'abord, du potentiel d'explosion que ces portiques pouvaient susciter, et d'autre part, de la part du Premier ministre, l'erreur de n'avoir pas réuni l'ensemble de ses services et vraiment réfléchi à ce problème-là. Donc, à partir de là, le Premier ministre s'est retrouvé un peu dans une impasse ou devant un dilemme. Soit il cédait à la rue palestinienne, soit alors là, il maintenait sa position et il risquait purement et simplement une troisième intifada. Et là, le problème supplémentaire qui s'est posé, c'est que le Premier ministre israélien a tout fait pour affaiblir l'autorité palestinienne et son chef, Mahmoud Abbas. Et la conséquence, c'est qu'il s'est retrouvé dans une situation à faire face à la rue palestinienne sans aucun intermédiaire politique pour essayer de calmer la rue, d'essayer d'avoir un dialogue avec ces gens-là. Donc, au fond, le dialogue s'est passé entre le gouvernement israélien et toutes sortes de porte-paroles, notamment l'autorité religieuse, le WACS, qui décidait de son propre gré s'il devait accepter, refuser, etc., et canaliser un peu les humeurs de la rue palestinienne.
Il faut rappeler peut-être pour nos auditeurs que depuis la guerre de six jours, depuis 50 ans, il y avait une espèce de statu quo en ce qui concerne cette esplanade des mosquées, à savoir qu'il n'y avait pas de présence militaire israélienne sur l'esplanade lui-même théoriquement. C'était l'esplanade est contrôlée, l'accès aux mosquées est contrôlé par les autorités religieuses du WACF, qui sont payées par les Jordaniens, et l'Israélien contrôle les accès extérieurs, non pas sur l'esplanade. Bon, évidemment, depuis 50 ans, il y a eu plusieurs crises, où il y a eu des événements, des manifestations, où les choses se sont déroulées différemment. Mais enfin, le statu quo prévalait. Et justement, la mise en place de ces portiques, comme vous le dites, ont été perçues comme une ingérence israélienne sur cette esplanade.
Oui, il y a une chose qu'il faut rappeler, que les deux grandes crises précédentes, celle de 1997, au cours de laquelle Benjamin Netanyahu avait donné l'autorisation d'effectuer des fouilles sous le Mont du Temple, ce qui a été reçu comme une ingérence intolérable dans les affaires qui devait être gérée par le monde musulman et qui a provoqué des manifestations et des heurts armés qui ont conduit à plus de 70 morts de part et d'autre, israéliens et palestiniens. Et l'autre événement, c'est la visite de Sharon au Mont du Temple. Et ces deux événements auraient dû quand même alerter le Premier ministre, allumer une espèce de lumière rouge pour se dire, au fond, est-ce qu'on fait bien d'avancer et de mettre en place ces portiques-là. Et voilà, je veux dire, la décision a été prise avec une légèreté absolument incroyable.
Oui, il faut dire aussi, parce qu'on l'a dit beaucoup, qu'il y a de telles portiques au Vatican, il y a des portiques identiques à la Mecque aussi. Donc les Israéliens n'ont vu que l'aspect sécuritaire par rapport à la mise en place de ces portiques, ils n'ont pas vu l'aspect politique, parce que la Mecque se trouve en Arabie Saoudite sous le contrôle de la souveraineté saoudienne. Par contre, l'esplanade des mosquées, elle est... Justement, c'est le gros problème, un des gros problèmes du conflit, c'est que les Israéliens ont contrôlé les accès, mais selon le statu quo dont on parlait précédemment, c'est le Waqf qui doit en assurer le contrôle. Et c'est là, ça pose un problème politique.
Oui, absolument.
Alors, ça c'est donc pour le déroulé. Les choses ensuite ont évolué. Les Israéliens ont finalement décidé de retirer ces portiques. Comment peut-on maintenant voir la suite? Alors, il y a eu aussi, on va y revenir, sur des événements tragiques en Jordanie parallèlement. Alors, d'abord, sur l'aspect jordanien, parce que les choses sont liées, revenez un petit peu sur le déroulé aussi de l'événement.
Il y a eu cet incident dans l'un des locaux de l'ambassade d'Israël. D'après les sources israéliennes, un menuisier qui devait effectuer des travaux dans ces locaux a attaqué un agent de la sécurité avec un outil de travail. Et l'agent de sécurité s'est défendu, a battu son assaillant, plus une autre personne qui était le... propriétaire du local jordanien. Et la Jordanie, en réaction, a encerclé l'ambassade d'Israël et a voulu enquêter elle-même et interroger l'agent de sécurité, ce qui était tout à fait inacceptable de la part du gouvernement israélien, puisque cet agent est couvert par par l'immunité diplomatique. Et là, peut-être que cet incident a permis à Benjamin Netanyahu de s'en sortir parce que il risquait un embrasement de la rue jordanienne et donc des difficultés tout à fait considérables dans les relations entre Israël et la Jordanie, ce qu'il ne pouvait pas se permettre. Et donc, je pense que cet incident-là a accéléré le déroulé des événements et a conduit Benjamin Netanyahu à réaliser une espèce d'accord avec la Jordanie en vertu duquel Israël démantelait les portiques sans aucune condition, et en échange, elle récupérait l'agent israélien. Alors le problème, c'est que aujourd'hui, Israël n'a plus d'ambassadeur à Amman, et Amman persiste toujours à vouloir interroger l'agent de sécurité avec une espèce de grand mécontentement de la réception que le Premier ministre israélien a fait à l'agent de sécurité, le recevant chez lui à la maison avec l'ambassadrice, en faisant toute une espèce de mise en scène pour montrer que ils s'en sortaient d'une situation extrêmement périlleuse.
Oui, c'était un accueil, on me présentait comme un retour d'un héros. Alors bon, oui. Il y a probablement une agression, il y a une enquête en cours même en Israël sur les conditions de cette agression de ce menuisier vis-à-vis de cet agent. On en saura par la suite plus, mais il est certain que cet accueil public n'a fait que rallumer un peu les braises, et très mal perçu en Jordanie, et notamment par le roi Abdallah, avec lequel Israël a un accord stratégique fondamental de paix et qui est stratégique pour la région, quoi.
Oui.
Et donc ça, c'est le premier point. D'ailleurs, le roi Abdallah était hier à Ramallah, rencontrer le président Abbas. Probablement la suite de tous ces événements, probablement peut-être pour coordonner leur politique. Alors maintenant, côté palestinien, quelles sont les conséquences et que peut-on retirer de ces événements?
Les conséquences ont été, si on veut, il y a deux niveaux. Il y a d'abord le peuple palestinien, la jeunesse palestinienne, elle sort avec le sentiment qu'elle a marqué des points, qu'elle en sort renforcée avec le sentiment qu'elle détient un atout, que le gouvernement israélien n'est pas si fort que ça, qu'il est possible de faire plier. Et cette histoire des portiques, je pense qu'elle va. Elle a marqué les esprits et elle redonne un peu du courage aux jeunes Palestiniens en se disant, mais après tout, nous avons un potentiel si nous savons nous unir et descendre dans la rue et persister. Et là, on verra bien ce qui va se passer. Il faut espérer que tout ça va se calmer. Mais il y a un tournant dans la prise des consciences de leurs propres capacités. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est celui de l'autorité palestinienne, de Mahmoud Abbas, qui lui sort, il était déjà affaibli et il sort complètement marginalisé. On le voit bien, il n'a aucune autorité sur la rue palestinienne et il est obligé de monter d'un cran en cessant la coopération sécuritaire avec Israël pour montrer à son peuple que c'est lui finalement le dirigeant. Il essaie de reprendre la main d'une certaine manière. Et le résultat, c'est une crise supplémentaire des relations entre autorités palestiniennes et le gouvernement israélien. Comment tout ça va se terminer? On n'en sait rien, mais il faut supposer que cette étape-là de la cessation de la coopération va être levée à un moment ou à un autre parce que les deux parties en ont besoin.
Oui, ça, il me semble d'ailleurs que c'est déjà un peu le cas, parce qu'effectivement c'est l'intérêt conjoint, mais c'est vrai ce que vous dites, c'est que les manifestations qui, dans l'ensemble, n'ont pas été trop meurtrières par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au Moyen-Orient, il y a eu une dizaine de morts en tout, y compris, il faut le rappeler, l'assassinat vendredi, il y a 15 jours, de trois personnes d'une famille dans une colonie en Israël, enfin en Cisjordanie, de Al-Armij, par un patient qui a réussi à entrer dans l'agglomération et entrer dans une maison, a tué trois personnes. Dans ce climat, je dirais, là où très souvent les choses s'enflamment, certes c'est une crise, mais jusqu'à présent, il semblerait que des deux côtés, on essaie de calmer le jeu et de revenir à la situation précédente. Mais bon, ce qui montre bien que c'est une. Le chemin des mosquées ou du mont du temple, selon les différentes dénominations de ce lieu, c'est un lieu éminemment sensible et il faut faire très attention quand on doit gérer une crise sur ce lieu. Voilà, donc merci Samy Cohen pour nous avoir apporté votre regard sur ces événements. Évidemment, on continuera à suivre la situation à Jérusalem et spécialement en espérant que tout va redevenir un petit peu comme c'était précédemment et que la coopération sécuritaire reviendra au stade où elle était entre l'autorité palestinienne et Israël parce que c'est l'intérêt des deux côtés. Merci et à tous nos éditeurs, Shabbat Shalom et à dans 15 jours.